VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. En RDC, ouverture aujourd'hui à Lubumbashi du procès pour génocide et crimes contre l'humanité de 34 Bantous et Pygmées du nord de la province du Katanga, région où leurs deux communautés s'affrontent depuis 2013. En raison de l'absence de 5 des 8 juges qui ont instruit le dossier, la cour d'appel du Katanga a décidé de renvoyer l'affaire au 29 septembre, après seulement une trentaine de minutes d'audience. Les 34 accusés, 23 Bantous et 11 Pygmées ont été arrêtés au cours de plusieurs vagues d'arrestations, dont la première a eu lieu en juillet 2014. Les affrontements entre combattants bantous de l'ethnie Luba et les Pygmées du sous-groupe Batwa au Katanga ont souvent entraîné des tueries, pillages et incendies de villages qui ont causé des déplacements de population. Longtemps marginalisés, les Pygmées de RDC cherchent maintenant à faire reconnaître leurs droits, mais leurs revendications se heurtent au refus des Bantous, selon l'AFP. Crise burundaise, regain de tension entre Kigali et Bujumbura, alors que la situation sécuritaire au Burundi continue de se détériorer. Le point avec Jacques Aristide.
Le Rwanda a fait savoir qu'une trentaine de ses ressortissants qui se rendaient dans la capitale burundaise ont été appréhendés et emmenés vers des destinations inconnues. Dans un message posté sur Twitter, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, affirme avoir soulevé la question avec le gouvernement burundais. Ces nouvelles interviennent alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader avec des attaques nocturnes contre la police et des assassinats ciblés à Bujumbura et en province. Samedi soir, l'administrateur de la commune d'Izal, Pontien Barutwanayo, qui était membre du parti de l'opposant Agathon Rwasa, a été abattu par des hommes non identifiés alors qu'il prenait un verre en plein cœur de sa localité.
Par ailleurs, nouveau gouvernement à Bujumbura depuis hier. Les grands ténors du régime restent en place, notamment Alain Nyamitwe, ministre des Affaires extérieures. Parmi les femmes détenant des portefeuilles, citons la ministre de la Justice, Madame Aimée Laurentine Kanyana, sa collègue à la Santé publique, Dr Josiane Nijimbere, et la ministre de l'Éducation nationale, Janvière Ndira Isha. Conflit du Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir signera demain à Juba, la capitale du pays, l'accord censé mettre fin à 20 mois de guerre. Le traité a déjà été signé par les rebelles le 17 août à Addis Abeba, mais le président Kiir avait refusé de le valider à cette date en réclamant le droit de consulter sa base avant tout geste en ce sens. La décision de signer demain a été annoncée par le porte-parole de Salva Kiir. Il a ajouté que le président du Kenya, celui de l'Ouganda et aussi le président du Soudan se rendront demain à Djouba pour un sommet d'une journée au cours duquel le président Kiir doit signer l'accord de paix. Sera également présent le premier ministre de l'Éthiopie. Afrique de l'Ouest maintenant, Mali, la médiation internationale conduite par l'Algérie appelle les groupes armés qui se sont récemment affrontés dans le Nord à revenir à leur position d'avant les combats et à libérer les prisonniers. Pour leur part, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA ont précisé lundi leurs conditions pour réintégrer le processus de paix après avoir suspendu leur participation au comité de suivi de l'accord d'Alger. De Bamako, le compte-rendu de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Les ex-rebelles, en quittant la salle, veulent rester dans la dynamique de la paix. Ils estiment que la situation dans la localité d'Anéfis est inacceptable, d'où leur demande de retrait des combattants de la plateforme de cette localité stratégique. La CMA demande la libération des prisonniers capturés lors des combats d'Anéfis. Ils souhaitent qu'une session spéciale du comité de suivi soit consacrée à la résolution des récents combats dans la région de Kidal. Après leur retrait, le comité de suivi a fait un débat général sur la situation d'Anéfis. Un comité ad hoc a été mis en place. Ce comité doit aller à la rencontre des différentes parties sur place afin de trouver des solutions en vue de débloquer la situation. La médiation internationale, de son côté, demande aux parties concernées de retourner aux positions qu'elles occupaient à la date du 20 juin 2015 et à poursuivre la mise en œuvre des mesures de confiance, notamment la libération des personnes détenues à l'occasion de ces événements. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé dans un communiqué lundi qu'une brigade de gendarmerie avait été attaquée dimanche soir par des inconnus armés à Oursi, localité du nord proche des frontières du Mali et du Niger. Des détails avec Idrissa Sedoudia.
Selon le communiqué transmis à l'AFP, cette attaque a blessé grièvement un gendarme en service et la fille du commandant de brigade. Les autorités burkinabées affirment avoir donné l'alerte et déployé les forces de défense et de sécurité en vue de retrouver les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. C'est la première fois qu'un poste tenu par les services de sécurité fait l'objet d'une attaque dans le Sahel burkinabé, frontalier du Niger et du Mali. Début avril, le chef de sécurité roumain de la mine de manganèse de Tambao, situé dans la même région du Sahel, avait été enlevé par des assaillants. Cet enlèvement a été revendiqué par le groupe islamiste Al-Mourabitoun du chef djihadiste Mortar Belmortar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La guerre contre Boko Haram maintenant, la France va proposer aux pays impliqués dans la lutte contre le groupe islamiste nigérian de se réunir à Paris pour envisager des actions communes. C'est ce qu'a déclaré le président français François Hollande aujourd'hui à Paris. Sur le terrain au Nigeria, au moins 5 morts et 28 blessés. Tel est le bilan d'un attentat suicide perpétré ce matin par une femme kamikaze près de la principale gare routière de Damaturu, dans le nord-est du pays, selon la police nigériane. Personne n'a revendiqué l'attaque, mais Damaturu est la capitale de l'état du Yobe, l'un des plus touchés par l'insurrection du groupe islamiste. Et puis toujours au Nigeria, le gouvernement du président Muhammadu Buhari dément se livrer à une chasse aux sorcières contre les responsables de l'administration de son prédécesseur Goodluck Jonathan, après l'inculpation d'un officier militaire pour possession illégale d'armes chez Rubin Dorsil.
Il s'agit du colonel Sambo Dasuki, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale du Nigeria. Le département de la sécurité d'État du pays, le DSS, a annoncé hier lundi que la mise en accusation de M. Dasuki découle de perquisitions effectuées en juillet dernier dans 3 de ses propriétés et qui ont permis de découvrir, entre autres, 7 armes à feu de gros calibre, des équipements de type militaire, 12 véhicules neufs, dont 5 blindés. Pour rappel, le colonel Sambo Dasuki figurait il y a 30 ans parmi les officiers qui avaient arrêté l'actuel président Muhammadu Buhari lors d'un coup d'État. À son retour au pouvoir en mai dernier, Buhari a révoqué Dasuki de son poste de conseiller à la sécurité nationale qu'il occupait depuis 3 ans.
Et pour terminer, actualité américaine, 10 ans après l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, la ville de la Louisiane a retrouvé son entrain, Timothée Donangmaï.
Chaque jour et durant toute l'année, les touristes arpentent les vieilles rues du célèbre quartier français de la Nouvelle-Orléans, où des concerts impromptus sont la norme, avec une combinaison d'images et de goûts à nul autre pareil. La ville revient de loin, car plusieurs mois après les inondations dévastatrices de Katrina en 2005, les hôtels et les restaurants étaient restés fermés, réduisant à néant les revenus du tourisme. Selon les responsables municipaux, les touristes sont de retour et avec eux, l'âme de la Nouvelle-Orléans. Andy Copeland est le maire adjoint.
Nous avons eu
9,3 millions de visiteurs l'année dernière et nous continuons d'étendre ce marché. La Nouvelle-Orléans a abrité le Super Bowl 2013, la finale du championnat de football américain, et nous sommes une ville où un événement majeur se tient chaque week-end. Mark Romig est le responsable du tourisme de la Nouvelle-Orléans. Le tourisme est l'un des piliers de notre économie. Environ 80 000 personnes travaillent dans l'industrie touristique. Rien que l'année dernière, les dépenses des touristes se chiffraient à 6,8 milliards de dollars. Alors que 90% des touristes venant à la Nouvelle-Orléans sont des États-Unis, l'impact des visiteurs internationaux ne cesse d'augmenter, souligne Mark Romig. Nous constatons que le visiteur international reste généralement plus longtemps que le visiteur domestique et dépense peut-être plus. Après l'ouragan Katrina, certains visiteurs craignaient que la Nouvelle-Orléans ne se remette pas complètement de cette tragédie, mais le responsable municipal du tourisme souligne que la ville est connue pour sa résilience. À travers les tempêtes, le paludisme, les fuites de pétrole brut, la ville se relève toujours. Les gens déploient des efforts pour remonter la pente et c'est ce que nous aimons tant. Et quand un visiteur vient ici, il sent cet esprit et veut en faire partie.
Merci de votre attention. Voilà, c'est tout.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.